Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. Et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Damien. Bonjour à nos chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous, d'écouter notre belle radio. Oh ben oui, je fais un petit peu de là. Bon ben voilà quoi.
Eh ben, mal, hein. Mais oui, il faut. Et donc en ce temps de confinement et avant la réouverture des cinémas, tu nous proposes en ce moment ton petit focus sur des films qui sont sortis il y a longtemps, d'autres moins longtemps. Et donc oui. C'est un film par jour de proposer aux auditeurs. Et on va commencer tout de suite avec un morceau d'un film sorti en 1937, film de Christian Jacques qui s'appelle François Ier.
François Ier, évidemment, c'est le nom d'un roi qu'on connaît, hein, que tout le monde connaît, François Ier, bien sûr. Donc voilà, François Ier, oui, Christian Jacques, tu l'as dit. Donc c'est un film, oui, de 1937 qui dure 1h40. D'ailleurs, il est en VOD, hein, comme tous ceux que je vais proposer là, d'ailleurs. Il est en VOD depuis... mais lui, c'est récent, c'est depuis avril 2019. Qu'on peut l'avoir en VOD.
D'accord.
François Ier. Donc c'est un... Alors Christian Jacques, c'est un réalisateur, scénariste, c'est un chef décorateur aussi. Enfin c'était parce qu'il est décédé en 1994, à 89 ans. Il a eu pas mal de prix, beaucoup de nominations. Il estimait que son film était regardable, était visible à partir de 6 ans. 6-7 ans. Voilà, donc c'est donc le film qu'on peut vraiment regarder en famille, il n'y a pas de doute, surtout quand j'aurais donné le nom des acteurs. Alors d'abord, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un pauvre forain qui est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, oui, parce que lui, il n'est pas comédien, il est remplaçant, donc ça lui fiche un peu les chocottes. Donc affolé, il a recours aux offices d'un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé, à la cour du roi de France. Et là, il y vit des aventures merveilleuses et angoissantes en même temps, parce que c'était quand même une époque assez, comment on peut dire ça, une merveilleuse époque, mais en même temps, il y avait quand même encore, le peuple était relativement pauvre. Quand on partait sur la route, il y avait pas mal de brigands qui t'arrêtaient sur la route, dans les forêts, ça. Enfin, c'était quand même, il y avait... Et puis ils avaient juridiquement instauré des tortures. Il y avait la salle des tortures pour faire avouer les gens qui étaient arrêtés, les faire avouer, c'est-à-dire les obliger à avouer. Alors c'était bon, il y avait des trucs quand même assez terribles. Et dans ce film, on voit d'ailleurs, à un moment donné, Fernandel, puisque c'est lui qui a le rôle de ce pauvre forain qui s'appelle Honorin. Fernandel, on le voit à un moment donné dans le film, d'ailleurs, dans la salle des tortures. Quand on veut le faire parler, il y a une scène, mais très drôle, hein, parce que c'est une comédie. Hein. On a Mona Goya aussi, qui était une grande actrice à l'époque. Ouais. Alice Tissot aussi. Qui aussi aimé Simon Girard. C'est lui, il a le rôle du méchant d'ailleurs. Mais c'était un joli casting quand même. C'était de très grands comédiens de l'époque. C'était joli comme un beau casting. Alors évidemment, Fernandel là-dedans s'amuse beaucoup. Hein. C'est clair, ça se voit, ça se sent. Mais tous les acteurs d'ailleurs, c'est quand même très drôle. Donc c'est à voir, hein, voir en famille, ça détend, ça fait du bien. Voilà, on se retrouve à la cour de François Ier. C'est quand même pas mal. Enfin, moi, je sais que parmi tous les Fernandel qui existent, et Dieu sait qu'il a tourné dans beaucoup de films, ça fait partie de mes préférés quand même, hein, avec l'Auberge Rouge. L'Auberge Rouge, j'en parlerai peut-être, d'ailleurs, je sais pas. Voilà, ça fait partie de ceux que je chouchoute et que j'aime regarder de temps en temps. Donc voilà, évidemment, la scène la plus célèbre du film, c'est quand il est dans cette fameuse salle des tortures et qu'après lui avoir fait avaler des litres d'eau, on amène une chèvre qui lui lèche les pieds. Alors évidemment, il est attaché, donc c'est horrible parce que ça fait rire. En fait, la torture, c'était de faire rire pour faire avouer, parce que ça pouvait aller jusqu'à la mort, hein, évidemment. Le rire qui dure trop longtemps et qui est trop violent peut provoquer un arrêt du cœur, tout simplement. Donc voilà, mais là, évidemment, ça se passe bien. Il ne meurt pas du tout, mais il rit beaucoup. Et nous aussi, quand on le voit là avec la chèvre. Bah, c'est une scène assez célèbre quand même, hein, voilà, du film. François Ier.
François Ier, donc.
Oui, bah Christian Jacques. Ah mais oui, quand même, Christian Jacques, pour le situer. Par exemple, on lui doit des films, un film merveilleux, là, en 1952, il a tourné Fanfan la tulipe, avec Gérard Philippe, Gina Lollobrigida, il y avait Noël Roquevert. C'est un très, très, très joli film. Aussi, que je vous conseille, mes chéris, franchement, si pendant les fêtes, vous ne savez pas quoi faire ou vous êtes chez vous, vous n'avez pas l'intention de partir ou d'aller ailleurs, ou voilà, ben vous pouvez aussi trouver en VOD le Fanfan la tulipe de 1952. Et puis, il avait réalisé aussi en 1985 un très joli documentaire sur Marcel Aimé. Marcel Carné, pardon, Marcel Aimé existe aussi, mais c'est pas lui. Marcel Aimé, c'est le poète, le romancier. Non, là, je parlais de Marcel Carné. J'en avais pas parlé la semaine dernière, d'ailleurs, pour un film. Carné. Donc, c'est un documentaire très, très chouette sur son grand ami, Marcel Carné. 1985. Ah oui, aussi, j'oubliais quand même aussi, en 1963, il a réalisé La Tulipe Noire avec Alain Delon. Pareil, c'est un film d'aventure, c'est chouette. Il y avait Alain Delon, Vernalisi dans le rôle principal, La Tulipe Noire. Voilà, c'était pour le situer, Christian Jacques. Ouais.
Et,
ouais.
Et nous continuons maintenant donc avec le deuxième film proposé par Anne, c'est La Mariée, La Marie du Port. La Marie du Port de Marcel Carné, sorti en 1950.
Le prénom, parce que la mariée, ce serait E.E. Mais là, c'est Marie, le prénom Marie. La Marie du Port. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement virer dans les mariages. La Mariée du Port. Non, la Marie du Port, qui est sortie en février 1950, et qui durait 1h28. Alors, c'est policier, c'est... moi, je dirais, je le mettrais plutôt dans les comédies dramatiques, quand même, hein. D'abord parce que ça se termine plutôt bien, donc un drame, souvent, ça se termine mal. Comédie dramatique, c'est différent. Ouais, quand même, plutôt, hein. Alors c'est donc, eh ben justement, on en parlait, c'est Marcel Carné. C'est pour ça que ça tombait bien que je puisse parler du documentaire de Christian Jacques, qui avait été réalisé sur Marcel Carné, qui était son grand ami. D'ailleurs, Christian Jacques, lui, il est décédé en 1994, voilà, et Marcel Carné en 1996. Ah, et ils étaient de la même époque tous les deux, hein. Et donc, Marcel Carné, il avait 90 ans, alors que son ami Christian Jacques en avait 89. Ils se sont vraiment suivis tout le temps. Voilà, deux grands amis cinéastes qui se sont suivis d'un bout à l'autre. Alors, La Marie du Port, oui, je reviens. Donc, c'est un... Alors, il y a... Je vais le dire tout de suite parce que, bon, il y a Jean Gabin. Voilà. Il y a Nicole Courcel. Eh oui, la délicieuse Nicole Courcel qui nous a quittés, là. Elle nous a quittés en 2020, je crois. Il me semble que c'est 2019 ou 2020. Enfin, c'est assez récent. Et je crois que j'en avais parlé, là, à Radio Entre Deux Mers, je crois. Quand elle est décédée. Oui. Mais alors là, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020. Grande comédienne, grande actrice. Il y avait Julien Carrette aussi. Il y a Julien Carrette dans la Marie du Port. Un grand comédien, celui-là aussi. Et oui. Alors c'est quoi ? Ben, c'est l'histoire d'un homme d'affaires, c'est Jean Gabin d'ailleurs, quelque peu cynique, propriétaire d'une grande brasserie et d'un cinéma à Cherbourg. Et oui, il avait un cinéma à Cherbourg. Il accompagne sa maîtresse Odile à l'enterrement de son père à Port-en-Bessin. Là, il fait la connaissance de Marie, la sœur d'Odile, qui a tout juste 18 ans. Il tombe amoureux de la jeune femme. Si Marie n'est pas insensible à son charme, elle refuse toute liaison en dehors du mariage. Il va alors se retrouver entre ces deux femmes, l'une avec qui rien ne va plus, l'autre avec qui rien n'a vraiment commencé. Et oui, et c'est une belle histoire d'amour en fait. Il n'y en a pas tant que ça dans la biographie, enfin dans la cinématographie de Jean Gabin. Des vrais, une histoire d'amour sympathique qui finit plutôt bien. Il y en a très peu hein, dans son parcours à Jean Gabin. C'est vraiment... Bon, bah voilà. Donc, Marcel Carné, bah oui, mais on en parle à chaque fois. Mais il faut dire que c'est un type épatant, c'est un réalisateur extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur, évidemment, parce qu'il a fait des petits chefs-d'œuvre. Mais j'en ai parlé déjà. Hein. Il était donc adaptateur également. Hein. Et bah oui, puisqu'on lui doit Le Jour se lève, 1939, Hôtel du Nord. En 38, Quai des Brumes, en 38, Les Enfants du Paradis, en 45. Alors, on rencontre dans son cinéma, à lui, on rencontre des grands, quoi. On rencontre Gabin, justement, dont on parle dans La Marie du Port. On rencontre Arletty, Michel Simon, Louis Jouvet, Maria Cazares, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault, Annabelle, Jean-Pierre Aumont. Tout ça, dans toute son œuvre, on rencontre tous ces gens-là, et j'en passe, hein. J'en parle, je ne peux pas tous les nommer, mais on rencontre vraiment les grands acteurs de l'époque dans ces films merveilleux. Alors, La Marie du Port, c'est tiré d'un roman de Georges Simenon. On connaît quand même, hein, on connaît Georges Simenon. Voilà. Donc, c'est quand même... C'est très beau. Bah, il a eu plein de prix d'ailleurs et beaucoup de nominations, La Marie du Port. Il repasse pas souvent ou presque jamais. Moi, je sais pas s'il repasse de temps en temps. Je sais pas. C'est pas celui qui repasse le plus souvent de Jean Gabin, je pense. Mais il existe en VOD. Voilà. La Marie du Port. Très très beau.
Très bien, donc, pour ce film. Et on continue maintenant avec un film qui s'appelle Falling in Love, sorti en 1985.
Oui, ah, Falling in Love, ah, ben, évidemment. Alors là, mes petites chéries, hein, je m'adresse aux petites chéries. Là, c'est pour les romantiques, c'est pour les... Bon, je ne vais pas dire comment ça finit, mais ça finit bien. Il vaut mieux que je le dise tout de suite, quand même, finalement. Oui, parce que c'est une comédie dramatique qui dure 1h50, qui est donc sortie, comme disait Damien, en 1985, en mars d'ailleurs, je crois. Et donc, c'est un film américain de Hulu Gobbard. Alors, Hulu Gobbard, c'est un nom qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est un grand réalisateur, scénariste américain. Il est décédé en 2012. Il avait 83 ans. C'est donc un... Ben, oh, qu'est-ce qu'on lui doit à lui ? Ah oui, il était premier assistant réalisateur, il a été longtemps premier assistant réalisateur sur West Side Story. West Side Story, c'est sorti en 1961, avec Natalie Wood, hein, qui ne connaît pas. Et puis il a aussi réalisé en 1999 Aussi profond que l'océan, le titre du film, avec Michel Pfeiffer, Whoopi Goldberg, Treat Williams. C'était un très beau film sur l'histoire de l'enlèvement d'un enfant qui réapparaît, soi-disant 10 ans après, mais je ne vais pas raconter l'histoire. En tout cas, il fait de très beaux films, Hulu Grobard. Et oui. Alors là, Falling in Love, effectivement, ça paraît comme ça une histoire un petit peu simple, parce que bon, mais non, c'est beaucoup plus joli que ça. Alors, je vais d'abord donner le nom des acteurs quand même. Il y a Robert De Niro dans le rôle principal, Meryl Streep dans le rôle aussi principal, les deux rôles principaux, avec ces comédiens magnifiques, extraordinaires. On a Harvey Keitel également dans le film. Alors, l'histoire, le scénario est très simple en fait, hein, comme ça, bon, avec des comédiens très très moyens, je pense qu'il en existe aussi aux États-Unis, ça aurait pu faire un mauvais film en fait. Mais avec ces deux comédiens-là, franchement, c'est une petite merveille. Alors, ça se passe à Noël, c'est un jour de Noël à New York, Frank, Robert De Niro, et Molly, Meryl Streep, les bras chargés de cadeaux, se heurtent. On s'entraide pour ramasser et on se souhaite joyeux Noël. Puis chacun part de son côté avec une certaine nostalgie. Quelques mois plus tard, Frank et Molly réalisent qu'ils prennent chaque matin le même train. Première parole timide, premier sourire. Ils se retrouvent le soir sur le trajet du retour et décident de faire régulièrement le voyage ensemble. Ils tombent peu à peu follement amoureux l'un de l'autre. Mais ils sont mariés tous les deux. Molly et Frank vivaient séparément, sans une vraie histoire d'amour, quoi. Mais bon, une histoire d'amour qui devenait une histoire sans histoire, en fait. Voilà ce qu'ils vivaient chacun avec leur conjoint. Ils vont vivre ensemble, par contre, une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Voilà, c'est l'histoire de Falling in Love, tomber amoureux.
Donc,
belle histoire.
Voilà, alors, pour ce film, donc.
Oui, alors, Grobard, là, c'est donc un réalisateur. Donc, j'ai dit qu'il était assistant réalisateur. Donc, c'est vrai que, bon, quand on imagine qu'il a été assistant sur le film dont je parlais, là, West Side Story, quand même, on se dit que c'était un bon. Voilà, c'est ce qu'on se dit quand même. Hein. Eh oui, on prend pas n'importe qui. Quand on réalise un film comme West Side Story, on ne prend pas n'importe qui comme assistant.
On continue maintenant avec le film Oscar Wilde de Brian Gilbert, sorti en 1997.
Oui, c'est ça. C'est 1998, hein, octobre 1998, c'est ce que tu as dit ?
Non, j'avais dit 97 comme tu m'avais transmis sur tes notes.
Ah ben... D'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je crois qu'il est réellement sorti dans les cinémas en 97, en fait, oui. En réalité.
C'est ça.
Enfin, on va dire 97-98, hein, parce que là, j'ai pas de certitude, là. Hein, donc, on va pas chipper à peu près la même chose, quoi. Ça dure 1h55, c'est un drame, biopic. J'ai dit 1h55, hein, presque 2h. De Brian Gilbert, comme tu as dit, justement, oui, qui est un réalisateur, scénariste, producteur britannique. Il a 60 ans, donc il peut encore faire de jolies choses, réaliser de jolies choses. Alors son film est britannique, allemand et japonais. Et oui. Alors c'est d'après le roman, hein, d'Oscar Wilde et la biographie en fait de Richard Ellman. Si on connaît un petit peu quand même, Richard Ellman, il est dans le milieu du cinéma, aussi dans le milieu de l'écriture. Donc il écrit des biographies, dont celle-ci justement, celle d'Oscar Wilde. Donc alors Oscar Wilde. Alors dans le rôle principal, on a Stephen Fry, là, qui est extraordinaire dans ce rôle. Mais vraiment, quoi. Il était fait pour ce rôle, en fait. l'acteur. On a également Jude Law, on connaît, hein, Vanessa Redgrave, voilà, dans les rôles principaux. C'est donc un film britannique, allemand et japonais. Et oui, tout le monde s'y est mis pour ce film. Donc là, c'est quoi ? Ben, c'est l'évocation, en fait, des amours peu conformes pour son époque, de l'auteur du portrait de Dorian Gray. Ah oui, c'est pareil, il y a un film d'ailleurs, hein, pour le portrait de Dorian Gray. Enfin, c'est un roman d'Oscar Wilde. Donc, il est célèbre dans son pays avant d'avoir écrit une ligne par ses épigrammes et ses mots d'esprit. En fait, il était déjà célèbre avant de lancer ces mots d'esprit qui sont très connus, qui sont délicieux, absolument. Après une liaison tumultueuse avec Lord Alfred Douglas, alias Bowie, dont l'intelligence, la beauté et l'insolence le fascinaient, il est dénoncé comme sodomite par le marquis de Queensberry, le père de Bowie. L'écrivain, bien que passible de prison, refuse l'exil et décide courageusement de faire face en poursuivant le marquis pour calomnie. Voilà, ça c'est l'histoire du film. En fait, c'est un film qui a été nominé d'ailleurs. Et finalement, Oscar Wilde va faire de la prison. Ouais, pas mal d'ailleurs. Et ça va être une période épouvantable pour lui. C'est cet homme qui était absolument génial et qui a été poursuivi comme un criminel, hein. Voilà, parce qu'il était homosexuel. On l'avait compris. Hein. Donc voilà, et ce film est très beau, vraiment très très beau. Et si vous aimez, si on aime Oscar Wilde, on va aimer ce film, absolument. Voilà, Oscar Wilde.
Donc le biopic Oscar Wilde. Et nous allons maintenant continuer avec un film sorti en 2001 où on retrouve Benoît Poulvorde en VRP. Ça s'appelle Les Portes de la Gloire.
Oui, alors là on passe dans un registre tout à fait différent. Surtout si je dis qu'il y a Benoît Poulvorde dans le film. Déjà, on imagine qu'on sort de... C'est pas une histoire triste, hein. C'est une comédie donc française de Christian Méré-Palmer, qui est un réalisateur scénariste français. Il a 60 ans, d'ailleurs. Il va pouvoir faire encore de belles réalisations. On lui souhaite, en tout cas. Donc, Les Portes de la Gloire, oui, c'est sorti en juin 2001. Ça dure 1h29. Alors il y a Michel Duchaussois également, il y a Julien Boisselier, il y a Étienne Chicot et Yvon Bach qui sont d'ailleurs les héros de cette histoire. Moi j'ai beaucoup ri quand même, hein, mais en même temps c'est une comédie, c'est un peu grinçant quand même, hein, c'est une comédie, oui c'est ça, un petit peu quand même... Un peu corrosif par moment. Ça se passe dans le nord de la France. Régis Demanet est commercial à Pégase. Alors Pégase, c'est une petite société de vente à domicile. Ce chef tyrannique d'une escouade de VRP farfelu voit débarquer sous ses ordres Jérôme Le Talec, le futur gendre du patron. Le nouvel arrivant tente de s'intégrer et devient le témoin des méthodes peu orthodoxes de ces mercenaires du porte-à-porte, avec d'autres commis voyageurs qui s'appellent Balzac, Patrick Sergent et Michel Moineau. Jérôme sillonne les routes de France et investit les quartiers pavillonnaires pour y imposer aux crédules l'achat de 5 volumes de l'encyclopédie fantaisiste de Ralph Spiegel, un pacifiste visionnaire et idéaliste. Régis voit en la venue de Jérôme une occasion pour réaliser ses ambitions personnelles au sein de Pégase. Dans sa quête de pouvoir, il est guidé par son mentor, l'emblématique colonel Nicholson, l'officier martial du pont de la rivière Kouai. C'est une histoire incroyable. Ah, c'est sûr qu'ils sont même plus que farfelus, les protagonistes. Là, mais on rit beaucoup. Et évidemment, là, on a une fourchette d'acteurs extraordinaires aussi, quand même. Foelvoort, Duchossois, Chico, Yvon Bach. C'est quand même... ah là là, c'est un grand régal, quand même, ça, d'avoir ces acteurs. Les portes de la gloire. C'est vraiment... c'est très chouette, vraiment, hein. Alors, Christian Méré-Palmer, pour le situer un peu, le réalisateur, on lui doit quand même en 2011, il était une fois, virgule, une fois, eh oui, c'est un film avec Anne Marivin et François-Xavier de Maison, qui a été nominé d'ailleurs, et À la maison pour Noël, c'est un autre titre, avec Virginie Efira et Rachel Arditi, dans les rôles principaux. Ah, mais tiens, pour la petite histoire, Rachel Arditi, au fait, c'est la demi-sœur de Pierre Arditi, le comédien très connu. Voilà. Et on lui doit ces deux films qui sont très jolis. Ils sont très, très chouettes. Il était une fois, et À la maison pour Noël. Voilà, c'était pour le situer, hein, Christian Méré-Palmer. Les portes de la gloire. Non, mais si vous aimez, en plus, si vous aimez Poelvoort, vraiment, quoi, si vous aimez cet acteur, si c'est, ce film est pour vous. Hein, c'est... Ah oui, bah c'est un régal de le voir et de l'entendre dans ce film. C'est quand même un très grand acteur. Et comme il est très bien accompagné, eh bien ça fait un chouette film. Les portes de la gloire. Voilà.
Donc, Les portes de la gloire avec Benoît Poelvoord. Et nous continuons maintenant avec un film sorti en 2005 qui s'appelle Travaux.
Travaux, oui, travaux. Alors travaux, bah, c'est encore différent, c'est encore autre chose. Travaux, oui, qui est aussi, bah, il est sorti en juin d'ailleurs, je crois, oui. C'est pas juin 2005. C'est de Brigitte Rouen. Alors Brigitte Rouen, on la connaît surtout comme actrice, un petit peu moins comme réalisatrice, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'elle est scénariste également. Et c'est une comédie, hein, comédie française, Travaux. Donc Brigitte Rouen, elle a 74 ans, elle continue d'ailleurs, elle est toujours extrêmement active, et tant mieux, parce qu'elle est vraiment très douée. Alors son film, il est français, mais britannique également. Voilà, ça dure 1h35, la comédie. Alors, c'est l'histoire de Chantal Letellier, qui est une femme admirable, entre guillemets, n'est-ce pas? Elle est avocate et elle gagne toujours. Dans son métier, c'est un cador, mais dans la vie privée, c'est une chèvre. Divorcée, sympathiquement. Elle est flanquée de deux ados très mal élevés. Côté cœur, c'est le désert, pas le temps. Comme il faut bien que le corps exulte, elle cède aux avances d'un client. Sauf que l'homme tombe éperdument amoureux et s'incruste. Pour s'en débarrasser, elle entreprend des travaux afin de rendre sa maison impraticable. Pour couronner le tout, elle engage un jeune architecte colombien sans papier qu'elle vient de faire régulariser. Éperdu de reconnaissance, celui-ci va lui refaire sa maison en entier. À l'aide d'une équipe de travailleurs au noir polyvalents, elle n'en demandait pas tant. Alors il y a un prix, il y a pas mal de nominations pour ce film. C'est pareil, Henri Beaucoup, c'est évidemment très bien joué. On a Carole Bouquet. Carole Bouquet, c'est elle, la femme admirable, l'avocate qui gagne toujours. Ensuite, on a Jean-Pierre Castaldi. On a Aldo Maccione également. Ah, Aldo Maccione. Et oui, on a Didier Flamand aussi. Bon, c'est un joli, très très joli casting. Et c'est un film tout à fait plaisant, mais à regarder. Alors là, on peut le regarder en famille, il n'y a pas de souci. Alors Brigitte Rouen, la réalisatrice, elle a réalisé un film en 2011, Tu honoreras ta mère et ta mère, qui est une comédie avec Nicole Garcia, Eric Caravaca, Patrick Mill, il y a Michael aussi, Abitboul. Et c'est pareil, c'est très chouette. Nicole Garcia, vraiment, là, sublime. Mais c'est un joli casting aussi. Voilà, on lui doit ce film également. C'était pour situer Brigitte Rouen. Travaux. 1h35, je ne sais pas si je l'avais dit.
Oui.
Et pour... Un film à voir, pour se détendre. En tout cas, si pour ceux qui, mes chéris, pour ceux qui veulent faire quelques travaux chez eux, Regardez le film avant, peut-être, avant de commencer les travaux. Oh oui. Oui, regardez-le quand même. Et voilà.
Et pour terminer, on va retrouver un duo connu dans les années 80. Et là, c'est un film sorti en 2012. Josiane Balasco et Gérard Jugnot dans le film d'Éric Bénard, Mes héros.
Ah oui, décembre 2012. Oui. Ah oui, Mes héros. 1h27, c'est une comédie française d'Éric Bénard, effectivement. Alors, et c'est, quand je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé le DVD. Et comme il y avait deux acteurs qui m'attiraient, je me suis dit, oh, il n'est pas cher du tout. Oh, je vais prendre ce DVD. Et puis voilà. Et quand je l'ai regardé, j'ai adoré. Depuis, je l'ai regardé 4-5 fois d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire, mes héros. Alors, c'est l'histoire de Maxime, qui est un chef d'entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d'ambulance au risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison. Et il se fait aussitôt d'ailleurs reprocher. Ah oui, il va la chercher et elle lui dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu m'as sorti de prison ? Non, non, il fallait me laisser. » Enfin, bon, elle a rien fait de grave, hein, on voit par la suite. Hein, mais bon, voilà, elle ne voulait pas. Elle voulait continuer, devenir une héroïne sans doute. Olga, elle s'appelle Olga, sa mère, est en effet une femme de caractère. Il apprend qu'elle s'est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. C'est l'occasion pour Maxime de passer un week-end loin de ses responsabilités, chez ses parents, deux sexagénaires qui, depuis 40 ans, s'aiment autant qu'ils s'engueulent. Cette parenthèse joyeuse dans une vie agitée est l'occasion pour le fils de se rappeler d'où il vient. La vie a beau être éphémère et injuste, elle peut aussi être envisagée comme une suite de petits bonheurs, d'autant plus qu'ils ont un invité. Il a été nominé, ce film. Et alors, les acteurs, c'est un joli casting. Josiane Balasco, c'est la maman, c'est Olga la terrible. On a dans le rôle du papa, Jacques, on a Gérard Jugnot. Ça fait un couple extrêmement attachant, d'ailleurs. Et puis le fils, Maxime, c'est Clovis Cornillac. Très, très bon dans son rôle. On a aussi alors un invité, un copain à eux, un copain de Jacques, le père. C'est Jean et c'est Pierre Richard qui incarne le rôle. Donc voilà, joli, très très joli casting, évidemment. On ne va pas se plaindre là. Et c'est une histoire très très jolie et très... Il y a de tout, enfin c'est voilà... Si vous avez encore vos parents, si mes chéris, si vous avez encore... regardez ce film. Et puis vous verrez peut-être vos parents sous un autre œil, avec un autre regard en fait, je dirais plutôt. Il y a Anne Charrier aussi dans le film, qu'on connaît bien. Et alors il y a un petit bonhomme aussi qui est là avec sa maman justement. C'est Ibrahim Bourama Darboé qui joue le rôle de Tiemoko, le petit garçon qui ne sait plus trop où aller avec sa maman. Enfin, je ne vais pas trop raconter l'histoire. Et il est formidable, le petit bonhomme, là, dans son rôle. Formidable. Voilà. Un joli film, ma foi. Qui termine notre série pour cette semaine ?
Mais merci beaucoup, Anne, pour tous ces films que tu nous as présentés. Films sortis entre les années 30 et les années 2010. Merci bien. Ouais.
C'est un film que je trouve joli, que je trouve agréable, qu'on ne voit pas souvent à la télévision. J'essaie justement de faire un tri dans les films qu'on revoit souvent, hein, si on regarde la télévision, et puis d'autres qu'on revoit rarement ou pas du tout. J'essaie de faire un tri parce que souvent, il y a de très bons films qu'on ne revoit pas, on ne sait pas pourquoi, qui ne repassent pas. On ne sait pas, peut-être qu'ils n'arrivent pas à les avoir aussi, hein. Peut-être qu'ils ne peuvent pas les... On ne sait pas, c'est peut-être juste des problèmes techniques et pas du tout par choix. En tout cas, j'essaie de faire ce tri-là. Alors, on a dit la réouverture des cinémas, ce serait peut-être après le 15 décembre.
Normalement, donc le 16, le mardi, c'est le 15, c'est un mardi, donc normalement le 16, les films vont pouvoir ressortir au cinéma. Donc, il va y avoir des films qui sont sortis juste avant le reconfinement, qui vont sortir le 16, d'autres qui étaient prévus de sortir le 16, mais par contre pour les films qui devaient sortir pendant cette période de fermeture, je ne sais pas, je pense que ça va être étalé au fur et à mesure des mercredis.
Ah oui, on les trouvera probablement en 2021 la plupart. Hein.
Oui.
Beaucoup sont prévus pour février, pour mars, mais enfin attention, soyons prudents pour l'instant. On ne sait pas, hein, on ne sait pas comment ça va se passer exactement. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est bien ça, c'est bien ça qu'on dit. Non, soyons prudents parce qu'on sait pas trop. Espérons que ça va se passer comme ça, que la réouverture va se faire pour tous les amoureux du cinéma qui aiment aller dans les salles de cinéma, pour avoir un grand écran dans nos salles de cinéma de proximité. Alors, pour l'instant, on reste encore prudent. Non, ce sont des dates qui ont été données. On verra. Ben, en attendant, de toute façon, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore... le problème n'est pas réglé, bien entendu. Hein. Donc, Radio Entre-deux-Mers remercie, comme d'habitude, tous les personnels de santé, les pharmacies, les hôpitaux, les ambulances, les aides à domicile, les personnels vétérinaires également, pour nos animaux. Et oui, qui travaillent depuis le début, depuis toujours d'ailleurs, depuis même le premier.
Mais j'ai envie de dire qu'un peu tout le monde travaille, et du coup, merci à tout le monde.
Là, on les remercie. On remercie les épiceries de village et les épiceries de quartier, les épiceries de grande surface aussi, qui ont fermé tous les autres rayons, mais qui ont laissé les rayons alimentaires ouverts. On remercie les producteurs. Grâce à eux, on a toujours nos fruits et nos légumes. Les manutentionnaires aussi, les routiers aussi, qui roulent et qui apportent tout ce qu'il faut, qui nous apportent tout ce qu'on veut. Les facteurs aussi, hein, les éboueurs, les pompiers, les personnels de sécurité. Et puis tous ceux qui se dévouent aussi pour leurs voisins, parce qu'il y en a depuis le début, hein, depuis plusieurs mois, qui se dévouent comme ça, justement. Et puis qui se dévouent pour les SDF également, enfin en tout cas pour quiconque a besoin d'aide. On est tout à fait en admiration devant ces gens-là et très reconnaissants. Puis toujours une pensée aussi pour les familles qui sont encore séparées et qui vont peut-être bientôt se retrouver, on ne sait pas, hein. Soyons prudents là-dessus aussi. Et puis une pensée aussi pour les gens qui vivent dans les grandes villes, dans les petits appartements confinés, qui n'ont pas beaucoup de place avec des enfants. On a une grosse pensée pour eux aussi. Pour les étudiants aussi, s'ils sont dans leur petite chambre, en attendant que l'université rouvre ses portes. Donc on a une grosse, grosse pensée à Radio Entre-deux-Mers pour tous ces gens-là. Mais en tout cas, et nous, chers auditeurs, soyez heureux quand même, hein, continuez à vivre le plus joyeusement possible. Faut pas trop se stresser, hein, parce que j'ai vu là des émissions où ils disent que le stress est très mauvais pour la santé. Alors il faut essayer d'être un petit peu optimiste, voilà, hein, et chasser le stress. Ça ne sert à rien et ça rend malade. Donc, essayez de vivre une belle vie quand même, là, continuez. En tout cas, allez sur les locations, hein, pour les films, allez voir ça, des locations pas chères en VOD ou autre d'ailleurs. Il y a d'autres solutions. Et puis, on pense à vous, nous en tout cas. Au revoir Damien, merci pour la technique en tout cas.
Merci.
Et puis, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.
Silence.
Thank you.
yeux, tu sais.